Apis mellifera. Le rendez-vous de Gaël Matura avec le rucher école du CPIE de Caylus.
Apis mellifera, mellifica, mellifera.
Mellifera.
2 juillet avec Gaël Matura. Bonjour Gaël.
Bonjour Lisa.
On va parler miel dans cette chronique aujourd'hui puisque c'était la période d'extraction. Il fait chaud, elles ont tout donné ce qu'elles pouvaient. On va parler le miel en soi. Qu'est-ce que c'est ? La texture, la cristallisation, la fermentation, l'humidité, les étiquettes aussi. On va parler miel. Donc c'est quoi le miel en fait ?
Alors le vrai miel, c'est un produit fabriqué par les abeilles. Donc à la base, c'est le nectar des fleurs qu'elles rentrent dans une poche qu'elles ont dans l'abdomen. Cette poche, on l'appelle le jabot. Et dans ce jabot, eh bien, il y a des bactéries, il y a des champignons, mais positifs. Et ça va ensemencer le nectar. Et ensuite, elles vont s'échanger ce nectar de bouche à bouche. Donc, il va passer dans plusieurs jabots, ce nectar. Il va être ensemencé avec plusieurs flores intestinales d'abeilles. Et lorsqu'il aura fait ce trajet, il va être régurgité dans une alvéole, puis ventilé par les ventileuses pour lui enlever son humidité qui est en trop. Et lorsqu'il sera à la bonne humidité, il va être operculé avec une petite porte en cire et il sera destiné à la nourriture hivernale des abeilles ainsi qu'à nos tartines.
Ça se conserve ad vitam aeternam, du miel ?
Alors, légalement, on doit dire qu'il se conserve 2 ans, la DDM. Et un miel qui est à bonne humidité peut se conserver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Donc, ça sera un aliment qui sera comestible, mais il faut bien se dire qu'au bout de plusieurs années, il aura beaucoup moins de parfum quand même.
C'est que du sucre ? C'est quoi les propriétés du miel ?
Alors, le miel, c'est quasiment que du sucre. Donc après, il y a plusieurs sucres différents. Il est composé de différents sucres. Je ne pourrais pas vous donner très exactement les proportions de glucose, de fructose, de maltose. Il y a plein de sucres différents. Et puis en plus, ça va dépendre des fleurs qui ont été butinées. Donc on va trouver du miel toute fleur, où là, bah, les abeilles vont butiner partout, où les ruches sont en position fixe, on va dire. Et puis après, vous pouvez trouver des miels monoflorales, miel d'acacia, miel de châtaignier. Et là, c'est parce qu'on a posé les ruches au moment de la floraison du végétal et qu'on récolte les hausses dès la fin de la mielée. Et là, on est en capacité de dire que c'est un miel monofloral. Et pour plus aussi de, comment dire, dans un souci de rigueur, on peut faire analyser son miel pour garantir l'origine monoflorale.
Quand vous avez extrait le miel au rucher école de Caylus, alors on annonce un poids plutôt pas mal, un beau bébé. Hein.
Oui, c'est bien, on est très content de la récolte, surtout sur une année où on a eu de la canicule déjà au mois de mai. Donc ça a un peu freiné les abeilles. Mais on a extrait 75 kilos au rucher école. Et d'ailleurs, à cette occasion, je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles et adhérents du rucher qui se sont mobilisés ce jour-là et qui sont venus désoperculer les quatre, qui sont venus faire tourner la manivelle de l'extracteur, faire couler tout ça dans les filtres, et puis aussi quand amener les bons petits plats pour faire le repas partagé de l'année. Donc vraiment, merci beaucoup à eux, parce que ce rucher école, il est pour eux, mais il vit aussi grâce à eux.
Extraction réussie, extraction, vous avez pu réaliser... vous avez utilisé un réfractomètre, c'est un mot que j'ai écrit sur mon papier, que... Je vous demande de définir.
Alors, un réfractomètre, en fait, c'est un petit ustensile, un petit outil qui permet de connaître le taux d'humidité du miel. Donc, on peut utiliser le réfractomètre directement au niveau des ruches en ouvrant une alvéole où il y a du miel et en posant une goutte de miel sur la petite vitre du réfractomètre. On met son œil et on regarde à travers cet appareil et ça vous indique donc le taux d'humidité du miel. Sachant que le taux d'humidité idéal, c'est entre 18 et 20%. L'idéal, c'est vraiment 18% d'humidité. Là, le miel, il va se conserver plus de 2 ans. La norme européenne va jusqu'à 20% d'humidité du miel. Mais il vaut mieux descendre un peu. Et ensuite, en dessous de 17%, on a un miel où il y a très peu d'humidité. Il va donc être très visqueux. Il va être difficile à extraire. Il a du mal à s'écouler et à passer dans les filtres. Donc, 18%, c'est l'idéal. Et le réfractomètre, voilà, c'est un petit outil très simple à utiliser et qui est très pratique, surtout au début quand on n'est pas sûr. Est-ce que mon miel est à bonne humidité pour pouvoir être récolté puis extrait? Ben voilà. Donc, on envisage d'en acheter un l'année prochaine au Rucher École et de pouvoir le prêter aux adhérents.
Donc, vous avez répondu à la question. Hein, ça joue sur l'humidité, joue sur la texture du miel, le fait qu'il soit cristallisé ou liquide.
Voilà, alors il n'y a pas que l'humidité. Donc, quand on extrait le miel, effectivement, un miel qui va être à 19% d'humidité a tendance à couler de façon plus fluide. Un miel qui va être à 17%, on sent que déjà il est plus épais. Mais ce n'est pas une histoire de cristallisation à ce point-là. C'est vraiment juste une histoire d'eau contenue dans le miel. Une fois que le miel il a maturé, c'est-à-dire qu'il a attendu pendant une dizaine de jours dans des fûts ou dans des maturateurs, on va faire la mise en pot.
Alors, maturateur.
Un maturateur. On laisse le miel maturer après l'avoir filtré, puisque toutes les opérations d'extraction, ça fait rentrer beaucoup d'air dans le miel. Donc, on va avoir plein de petites bulles, et en le laissant reposer, maturer, les petites bulles vont remonter à la surface, ça va former une écume, et cette écume, elle est comestible, mais elle n'est pas appréciée du consommateur, donc il vaut mieux la retirer. Voilà, c'est à ça que sert la maturation.
Et donc on l'extrait, on le fait maturer, voilà. Et ça cristallise au bout d'un moment.
Voilà, ça cristallise. Donc la cristallisation du miel, c'est totalement naturel, en fonction du nectar qui a été récolté, donc en fonction des sucres qu'il y avait dans les nectars, ça va cristalliser plus ou moins vite. Dans un miel liquide, il y a des cristaux de sucre qui se promènent, on ne les voit pas, mais ils ne sont pas accrochés les uns aux autres. Ils n'ont pas formé la petite ronde des sucres. Et le miel, en vieillissant, en maturant, eh bien, la cristallisation va commencer. C'est un processus tout à fait naturel. Et les cristaux de sucre vont se rapprocher et vont s'accrocher les uns aux autres. C'est ce qui crée la cristallisation. Et en fonction des nectars et donc des sucres récoltés, on va obtenir des cristallisations plus ou moins fines, plus ou moins grossières. Un miel qui cristallise quasiment pas, c'est le miel d'acacia. Il est connu pour ça, c'est un miel très clair. Et un jour ou l'autre, il cristallisera le miel d'acacia. Mais en général, on a tout mangé avant que la cristallisation commence. Un miel qui va cristaller assez rapidement, c'est des toutes fleurs avec beaucoup de ronces dedans, du nectar de ronces, ça cristallise assez vite. Le tournesol cristallise assez vite.
Châtaignier.
Le châtaignier, non, ne cristallise pas si vite que ça. Il est noir, mais il reste liquide assez longtemps, le châtaignier, quand même. Et une des mielées qui est réputée pour cristalliser le plus rapidement, c'est le colza. Donc ça, c'est miel de printemps, donc a un goût très particulier. Et ça, ça cristallise tout de suite, voire même ça cristallise dans les alvéoles.
Et quand on ouvre un pot et que... quand, avec passer la première cuillère là, qui est toute dure, en fait, le lendemain, quand on revient, il y a une couche de miel très liquide. C'est que ce n'est pas les mêmes fleurs, c'est que ça ne s'est pas agrégé.
Alors oui, ça dépend de la façon dont la cristallisation s'est faite. Et puis, il faut se dire aussi que le haut du pot est en contact avec un petit peu d'air qu'il peut y avoir sous la capsule. Donc, il y a forcément une réaction chimique un peu différente avec les sucres. Quand on a cassé un peu cette... première couche, dessous ça peut être plus souple. Après, si vous tombez sur un pot de miel qui est déphasé, donc là vous avez vraiment une partie liquide et une partie dure, donc la partie liquide elle se trouve soit tout en bas, soit tout en haut, avec vraiment une couleur différente. Voilà, ça c'est un miel déphasé et ça c'est qu'il y a eu un problème, donc certainement un miel récolté trop humide, voilà, dont les deux parties se séparent. Ou alors, ça peut être aussi une espèce de miel frelaté mélangé avec on ne sait pas quoi, on ne sait pas où.
Avant de parler fermentation, parce que oui, un miel peut fermenter. Les miels totalement liquides qu'on achète en supermarché, là où on appuie sur la petite bouteille en forme d'abeille, en plastique non recyclable, et qui donne toute l'année un truc parfaitement clair et parfaitement liquide, c'est concrètement pas vraiment du miel.
Alors, si, c'est du miel. En fait, là, il faut regarder l'origine. Bon, si vous avez origine hors CE, ça risque pas mal de venir de Chine, on le sait. Donc ça, c'est pas du miel. C'est de l'eau avec du sucre.
C'est quand même un goût de miel.
Un goût de miel, oui, parce qu'ils rajoutent 10% de miel ou ils rajoutent des arômes aussi de miel. C'est tellement plus facile. Par contre, le miel qui est vraiment du miel, mais qui va rester liquide tout le temps, en fait, tout simplement, il a été chauffé à 30-35 degrés en étant remué tout doucement. Et ça, ça casse la cristallisation, ça casse les cristaux et ça les empêche de se réunir à nouveau. Donc ce miel ne redeviendra jamais dur, ne recristallisera jamais. Donc ça n'abîme pas le miel, à condition qu'il ne soit pas chauffé au-delà de 35 degrés. Si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Si ça a été chauffé trop fort, votre miel, il a un peu un parfum de caramel un peu cramé. Et ça, c'est un signe que ça a été mal chauffé, trop fort, trop vite.
Le miel a des propriétés... c'est du sucre, mais je ne sais pas, quand on est malade, on dit tous « prends du miel ».
Eh oui. Alors, c'est pas le sucre qui nous soigne, ce n'est pas non plus le nectar des fleurs. Quoique certains miels, comme le miel de rhume, de thym, il y a quand même une partie du nectar du thym qui a des bonnes propriétés. Il y a peu de miels qui ont ça. En fait, ce qui nous soigne, c'est la flore intestinale des abeilles. Ce sont ces bactéries, ces champignons, ces antibiotiques naturels qui étaient contenus dans la salive des abeilles et qu'elles ont transmises au nectar. Donc, c'est ça qui nous soigne.
Et c'est ça peut-être qui est tué si on passe au-delà des
35 degrés. Donc, au-delà des 35 degrés, effectivement, le pouvoir médical, pharmaceutique du miel, je ne le dis pas bien, mais c'est l'idée, est moindre. Mais aussi, la part de vitamines qu'on va détruire au-delà de 35 degrés. Et puis, une partie des arômes et des saveurs qui disparaissent s'ils sont trop chauffés. Et à noter aussi qu'un miel, normalement, comme beaucoup de produits, ça se conserve à l'abri de la lumière.
Alors oui, on allait passer à la fermentation, là, justement, à l'abri de la lumière, mais j'ai quand même la bave des abeilles. C'est la propolis ?
Non, la propolis, c'est une résine, c'est une fabrication de leur part. C'est un mélange de résine qu'elles vont ramasser sur les bourgeons de certains arbres, type peuplier ou marronnier dans nos zones par ici, et qu'elles mélangent à de la cire. Et également qu'elles mélangent avec leur flore intestinale. Donc, c'est aussi pour ça que la propolis a des vertus thérapeutiques, à la fois par la résine, la nature de la résine, mais aussi à la fois par la salive d'abeille.
Et elle est dans le miel, dans des alvéoles spéciales ? Elle est où, la propolis ?
Alors, la propolis, en fait, elle est sur les parois de la ruche. On va les trouver sur le bois des cadres, sur le haut, le bas, le côté des cadres. Et la propolis, elle sert à boucher tous les trous dans la ruche. Lorsqu'il y a des éléments métalliques, des agrafes, des clous, des morceaux de fil de fer qui ne plaisent pas aux abeilles, hop, elle tapisse tout ça de propolis. Quand parfois il y a un insecte qui est rentré dans la ruche et qu'elles l'ont tué, mais qu'elles n'arrivent pas à le sortir, pour X raisons, hop, elle le momifie, elle l'entoure entièrement de propolis. Et lorsqu'il y a des trous dans le bois de la ruche aussi, il y a de l'air qui passe et qu'elles ne veulent pas qu'il y ait de l'air à ce moment-là, elles propolisent. Et on voit aussi certaines colonies qui trouvent que leur entrée est trop grande et où les échanges air, les échanges thermiques et les échanges d'hygrométrie ne leur conviennent pas et elles propolisent l'entrée de la ruche. Elles referment l'entrée de la ruche.
Et vous n'êtes pas tenté de mettre le plus de clous possible qui dépasse dans la ruche pour avoir plus de propolis ?
Alors, non, parce que pour récupérer la propolis, c'est une autre méthode. Donc, soit on peut gratter les cadres et la ruche. Ça marche très bien, c'est beaucoup fait. L'inconvénient, je dirais, c'est qu'on ne connaît pas l'âge de la propolis qu'on récolte. Et qu'ensuite, il y a un gros boulot de tri derrière parce qu'il va y avoir des petits morceaux de bois, des choses comme ça. Par contre, pour récolter de la propolis de l'année, avec une origine certifiée, on va dire, on pose des grilles à propolis sur le dessus des cadres, sur le dessus de la ruche. C'est une grille en plastique avec plein de petits trous. Et on va laisser un léger petit courant d'air passer. Ça va donc embêter les abeilles. Et en réaction naturelle, elles vont propoliser tous les petits interstices de cette grille. Et lorsque c'est plein ou que la saison de fabrication de la propolis est terminée, on récupère cette grille, on met au congélateur, parce que la propolis, ça se travaille toujours congelé, sinon ça colle partout. Mm-hmm. Et voilà. Donc ça, c'est une méthode, on va dire, plus propre, plus saine pour récupérer de la propolis dans ces ruches.
Plus propre d'ailleurs, attention, ça tâche la propolis.
Ça tâche peau.
Ça tâche, ça colle. Ça sent tellement bon par contre. Et on en revient à la fermentation du miel. C'est voilà. Pardon, on retourne sur le miel. Je m'égare, je parle dans tous les sens. Fermentation qui n'est pas du tout due à l'humidité.
Si.
Si.
Voilà, la fermentation est due à un trop fort taux d'humidité au moment de la récolte. Et il faut bien dire qu'on ne veut pas que le miel fermente. Les apiculteurs qui cherchent à faire fermenter un miel, c'est parce qu'ils sont dans un processus de fabrication d'hydromel. Mais là, c'est autre chose, d'accord ? Ils ont des cuves, ils ont des tonneaux, c'est une certaine quantité de miel, de sucre, d'eau, tout ça c'est contrôlé, ça prend plusieurs mois. Un pot de miel, quand il fermente, c'est qu'à la récolte, il y avait trop d'humidité dans le miel. Donc plus de 20% d'humidité. Et comme il y a de l'eau dans le miel... Même si le miel est un super produit, bah, à un moment donné, ça fermente, tout simplement.
Et ça se note comment ? On ouvre le pot, ça fait pop
Voilà, quand, à l'ouverture du pot, ça fait un petit bruit qui ne trompe pas, hein, comme vos pots de confiture quand ils ont fermenté. À l'odeur, il y a une légère odeur alcoolisée, et au goût aussi. Le miel a un goût pas alcoolisé, mais on sent bien qu'il y a une transformation qui n'est pas normale. Voilà.
Bah, moi, tu es comme ça, ça me donne envie, en fait. J'ai envie de goûter un miel fermenté.
Ouais, mais c'est pas très bon. Voilà. Autant la fermentation vers l'hydromel, c'est quelque chose de contrôlé, autant un pot de miel qui a fermenté parce qu'il a été trop humide, c'est pas agréable. Et l'apiculteur cherche justement à ce que ça ne se produise pas.
On n'a pas retrouvé du miel dans des tombes de pharaons qui...
C'est assez connu et il était encore comestible. Donc, je n'ai pas eu la chance de goûter ce miel de pharaon. Certainement, il ne devait plus avoir beaucoup de parfums et de saveurs, hein, mais il était encore comestible, au dire des archéologues, égyptologues qui ont découvert ça.
Donc, il n'avait pas fermenté.
Voilà.
Vous le disiez, conservé forcément à l'abri de la lumière, de la chaleur.
Hein. Voilà, conservé à l'abri de la chaleur, de la lumière. Alors, il y a un miel, si on veut le conserver bien, on conseille de le conserver dans un local à 14 degrés. Ça augmente sa durée de conservation. Par contre, si on veut qu'un miel cristallise pas trop rapidement, si on ne fait aucun travail sur l'assouplissement de la cristallisation, juste une mise en pot, là, vaudrait mieux pouvoir le stocker à 20 degrés. 20 degrés, la cristallisation se fait moins vite. Donc, c'est tout un petit jeu pour savoir, en fait, ce que l'apiculteur veut faire de son miel, s'il veut qu'il cristallise ou pas cristallise. Et après, quand on commence un peu à avoir des petites quantités, on peut s'amuser, diviser sa récolte en deux ou en trois, laisser un tiers en cristallisation naturelle, faire un tiers légèrement chauffé pour qu'il reste tout le temps liquide, parce que malheureusement, le client ou les amateurs de miel aiment les miels liquides. Et puis le dernier tiers, eh bien, on peut essayer de l'ensemencer avec un miel d'ensemencement, essayer de travailler la cristallisation, par exemple, pour faire un miel crémeux. Voilà. Donc là, sur la quantité, on va lui ajouter un autre miel qui est déjà crémeux, qui a déjà une cristallisation qui nous intéresse. Donc ensuite, il y a tout un processus où ce miel d'ensemencement, on va le mélanger à son petit tiers de récolte là, qu'on a conservé. Et puis, pendant 3 jours, 4 jours, on va venir touiller d'une certaine façon pendant un certain temps. Et là, les cristaux de sucre que l'on veut obtenir et qui viennent de ce pot de miel d'ensemencement vont se mélanger aux autres cristaux de sucre et ils vont donner la direction en disant, bah voilà, on va tous cristalliser de manière crémeuse. Et à la fin, le petit tiers... Ça va être crémeux. Voilà.
Bah, moi, en tout cas, quand j'ai un pot tout dur et qui est là depuis effectivement un certain temps, ça fait les bras hein, tous les matins, il faut juste le remuer et puis en fait les cristaux se cassent.
Oui, aussi, il y a le fait de le brasser, ça va remélanger les cristaux, ça va les casser, les séparer surtout, et ça redonne une autre onctuosité, une autre texture au miel.
Si vous avez hâte de goûter un des 75 pots, ou non, x2 même, parce que c'est 500 grammes, j'imagine, les
voilà,
pots
de 500 grammes.
Du Rucher École du CPIE de Keilus, il faut se fier à l'étiquette. D'ailleurs, il y a des obligations légales.
Oui, il y a 5 mentions obligatoires. Donc, il y a le poids, entre autres, le poids net, la mention de l'apiculteur. Qui est-il ? D'où vient-il ? Alors, on est à 2 mentions. Je vais essayer de me rappeler des 3 autres. Le miel, C'est-à-dire qu'il faut que ça soit marqué miel de fleurs. Donc ça, c'est le miel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? La date, la DDM, voilà, qui est la date, pas limite de consommation, mais voilà, il y a ça. Et puis, je crois qu'il y a l'année de récolte, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je les ai, voilà, vous voyez, je n'ai pas tout en tête, mais j'ai toutes les docs et les infos sur le Rucher École. Si vous en avez besoin, vous pouvez me les demander.
Où aller acheter le miel ?
Il faut passer au CPIE, dans nos locaux.
Acheter le miel et puis en profiter peut-être pour se renseigner pour l'année prochaine, la rentrée du Rucher École. Ce sera en hiver, ça va commencer par une classe austère, une salle sombre.
Oui, la première séance en janvier, mais d'ici là, il nous reste quand même une séance en septembre. Et puis une séance en octobre pour la mise en hivernage. Il faut vraiment se dire que là maintenant, on est au mois de juillet. La plus grosse partie de la saison apicole est terminée. Et en fait, ce qui va arriver en septembre, ça prépare la saison apicole de l'année prochaine.
Faut donc être attentif. On peut aussi réécouter l'ensemble des podcasts de cette émission Apis mellifera, où il y a quand même un bon paquet d'anecdotes là, qui sont citées. Je ne sais pas à la combienième émission on en est. Elle non plus.
Moi non plus, une vingtaine peut-être.
Ouais, facile. Ouais. On a fait un petit peu toutes les étapes depuis le temps que ça dure, mais on va persévérer, bien sûr, l'année prochaine. On a encore plein d'anecdotes. Moi, j'ai des questions à propos du cerveau des abeilles, de leurs yeux. Enfin, Gaëlle, elle a plein de bouquins dans tous les sens. Elle a votre réponse à tout. Du coup, on en profite pour cette chronique. Gaëlle Mathura, l'animatrice du Rucher École du CPIE Quercy-Garonne de Caylus. Merci beaucoup.
Merci Lisa, merci CFM.